Allô?
Vous écoutez le balado de l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse. Je suis Amélie Bibeault, auteure pour la jeunesse et présidente de l'AEQJ pour l'année 2021-2022. À chaque épisode, je rencontre deux écrivaines et écrivains, membres de l'AEQJ, pour qu'ils me présentent un de leurs livres. Nous aborderons ensemble certains sujets en lien avec la littérature jeunesse. Je vous invite à les découvrir avec moi. Dans cet épisode, nous découvrons un roman lumineux écrit de trois manières différentes. Édith Bourget nous présente Comme un soleil ardent, un livre qui fait du bien et parle d'entraide et d'espoir. On en a bien besoin par les temps qui courent. Mais tout d'abord, rencontrons Madeleine Fortier qui nous parlera de Monde magique, le pays de l'arc-en-ciel qu'elle a créé pour aborder la solitude. Elle nous apprend qu'on peut tout créer lorsqu'on garde la tête dans les nuages. Bonne écoute! Conseillère en carrière pendant 30 ans et proche aidante pendant 12 ans, Madeleine Fortier a commencé à écrire des guides. Un pour la gestion de carrière et l'autre pour aider les proches aidants à se protéger de l'usure de compassion. Puis, elle a débuté sa carrière littéraire avec un rêve qu'elle caressait depuis longtemps. Écrire des livres pour enfants, albums illustrés, contes étiologiques, légendes. Ensuite, elle a écrit un roman qui traite des relations toxiques et de la quête de liberté par le biais de l'art et de l'histoire, un recueil de nouvelles fantastiques et un recueil de contes étiologiques qui paraîtra au printemps.
Alors, bonjour Madeleine, j'espère que ça va bien.
Bonjour Amélie, oui, ça va très très bien. Et toi?
Génial, oui, ça va super bien. J'ai vraiment hâte qu'on se parle de ton beau projet. Là, j'ai lu les descriptions, tout ça, puis je suis bien intéressée par... moi, j'aime ça regarder les nuages dans le ciel, fait qu'on va rêver aujourd'hui. On va parler de Marjorie au pays de l'arc-en-ciel, tu sais, puis l'arc-en-ciel étant le symbole du bonheur, n'est-ce pas? On est un peu écœuré, là, mais...
Ben, disons que c'était pas voulu. Mais
non, on l'aime encore, l'arc-en-ciel. Moi, j'adore. Ah non, ouais. On court après les arc-en-ciel, c'est tellement magnifique. Alors, mais c'est ça, j'aimerais ça que tu nous en parles de ce beau projet-là.
OK, ben dans le fond, Marjorie au pays de l'arc-en-ciel, c'est que moi, j'ai voulu écrire une histoire qui portait un peu sur la solitude. Puis c'est la solitude, je l'ai connue étant enfant parce que la semaine, on était en ville, la fin de semaine, on était à la campagne. Donc, mes amis, je ne les voyais pas ni la semaine, ni la fin de semaine. Et là, ce que je faisais, j'allais dans le verger, j'allais dans le champ, puis je me couchais par terre, je regardais les nuages. Et j'avais l'impression que les gens que j'aimais, les personnages que j'aimais, les animaux que j'aimais, j'avais l'impression de les reconnaître dans le ciel. Et c'est ça un peu qui m'a amenée à écrire l'histoire de Marjorie, parce que Marjorie, ben, elle est seule aussi, parce que son père... Et pilote d'avion pour l'armée, ça veut dire des déménagements fréquents. Puis à chaque fois, ben, à part ses amis. Puis là, ben, triste, s'ennuie. Puis là, ben, heureusement, sa mère va lui dire « Viens avec moi ». Fait que là, elle l'amène dehors. Toutes les deux se couchent dans l'herbe. Puis elle dit « Regarde dans le ciel. Regarde, tu vois, ah, est-ce que tu vois le dragon? » Puis là, elle a commencé à déceler des formes. Puis là, elle dit « Oh! » Elle dit « Je revois mes meilleurs amis. » Elles sont là. Fait que là, sa mère, dans le fond, le message qu'elle veut lui transmettre, c'est que le ciel est toujours là.
Ouais.
Puis si tu observes bien, les gens que tu aimes, tu les retrouves là aussi. Après ça, l'autre question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qui arrive après? Parce que, bon, on sait que les nuages, ben, tu sais, tu les as observés. Puis moi aussi. Fait qu'on sait qu'à un moment donné, ben, là, ça s'effiloche, ça ressemble à d'autres choses. Là, ça va où ces affaires-là après? T'sais, c'est comme si mes amis sont là, puis là, oups, ils sont plus là. Fait que là, avec son père puis sa mère, ils prennent l'avion, puis s'en vont à l'autre bout de l'arc-en-ciel pour voir qu'est-ce qu'il y a au pied de l'arc-en-ciel.
Ah, ils trouvent-tu le pied de l'arc-en-ciel? Pour vrai, je l'ai trop cherché, moi, dans ma vie.
Ouais, ben moi, mais c'est parce que là, c'est surprenant. C'est pas un chaudron avec de l'argent.
Non.
C'est le pays de l'arc-en-ciel, puis c'est là que tous les nuages se retrouvent.
Ah!
Fait que là, elle va retrouver ses amis, elle va retrouver les dragons, elle va retrouver le beau petit chien qu'elle avait vu. Ils sont tous là.
Wow!
Fait que Ils sont retournés souvent, d'ailleurs, dans ce pays-là, mais dans l'histoire, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est un rêve, mais peu importe. Parce non. que le message que la mère veut transmettre à sa fille, je vais te le lire parce que je l'ai mis en encadré. « N'oublie jamais, où que tu sois, le ciel sera toujours là, au-dessus de ta tête, tel un ami fidèle. Et si tu observes bien les nuages, tu pourras y retrouver tous ceux que tu aimes. » Mm-hmm. C'est un petit peu la morale de mon histoire. Donc, la solitude, on peut trouver des façons de la rendre moins lourde, puis on peut trouver des façons de revoir ceux qu'on aime en observant bien les nuages.
Oui. Puis là, on parle de gens qu'on quitte, qui sont toujours vivants, mais est-ce que tu abordes aussi le deuil des personnes qui sont décédées ou on...
Non, pas de bain.
Comme inclus, mais pas dit.
Non, j'en ai pas parlé de ça parce que c'est quand même un peu.
C'est pas, je me demandais, est-ce que c'est un genre de livre qui pourrait être utilisé pour un enfant qui vit un deuil, par exemple?
Ça pourrait, absolument. Ça pourrait. C'est ça. Oui. Tu vois, j'avais pas pensé, mais oui, effectivement, dans le fond.
Ça me fait penser à quelqu'un, là. C'est personnel. Là. Je connais un enfant qui vit un deuil en ce moment, donc ça m'a fait penser à elle. Puis je me dis, ça pourrait être un livre qui pourrait vraiment être utile, tu sais, parce qu'effectivement, le ciel est toujours là, les nuages sont toujours là. Puis dans nos rêves, on peut visiter qui on veut.
Oui.
C'est tellement beau là, comme message.
Hein. Oui. Puis c'est... Oui, c'est ça.
c'est ça, je ne m'attendais pas à ça, là. Mais c'est correct. Ouais,
c'est vraiment... Ouais. Et j'y crois, là. Tu sais, j'y crois. Mm-hmm. Puis dans le fond, ce que je veux dire aussi aux enfants, bien, prenez donc le temps de les regarder, les nuages. C'est incroyable. Ouais. Tout ce qu'on... Tu sais, hein, tu sais que tu les as regardés longtemps. Ouais. C'est incroyable tout ce qu'on peut voir, ce qu'on peut... Imaginez, c'est d'ailleurs à la fin de mon livre, j'ai refait faire des activités pédagogiques, puis une des activités, c'est d'écrire qu'est-ce qu'ils voient dans les nuages. Puis qu'est-ce qu'il y aurait, comment ils pourraient imaginer le pays au pied de l'arc-en-ciel? Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce pays-là? Fait que je trouve que ça développe énormément l'imagination.
Absolument.
La créativité. Tu réfléchis, tu sors un peu de toi-même, tu sors de ta vie habituelle, là. tu sors du quotidien pour aller dans un autre monde où, en même temps, tu retrouves les gens que tu connais.
Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on ne fait plus assez souvent, s'arrêter, regarder le ciel. En tout cas, c'est quelque chose que je ne fais plus assez souvent, de toute évidence, puis que j'ai envie de faire avec mon garçon. Là, finalement, je me rends compte que c'est... Wow. Mm. Puis là, tu illustres aussi, c'est
beau. Oui, c'est mon premier album, en fait, que j'ai illustré moi-même à l'encre aquarelle et à l'aquarelle.
À l'aquarelle,
donc, OK. Que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais utilisé.
Ah non, OK.
Et c'est ça parce qu'il y a l'encre aquarelle qui me sert. Ben, je ne sais pas, je peux te le montrer vite, là. Puis pour les parties plus éclatante, ça, c'est de l'encre.
Oui, ça, c'est l'encre, parce que c'est de l'encre aquarelle. OK, ça,
c'est de l'encre aquarelle. Moi non plus, je connaissais pas ça.
OK. Je connais l'aquarelle, mais
c'est de toute beauté. Okay. Ça fait des choses, tu vois, ici, là.
Oui, c'est vrai, c'est des couleurs très éclatantes. Ça ressemble pas du tout à l'aquarelle, mais c'est plus doux que de l'encre.
C'est plus doux que d'encre. En arrière, c'est tout fait avec de l'aquarelle, tout simplement. Donc, c'est un médium que je connaissais pas. Et j'ai pris un petit cours en ligne, puis j'ai dit, bon, OK, on y va.
Wow!
Mais j'ai toujours aimé le dessin. Puis j'ai même fait au crochet une Marjorie, parce que mon héroïne s'appelle Marjorie, elle a 7 ans. Et j'ai crocheté. J'ai fait au crochet une Marjorie à peu près grande, comme, je ne sais pas comment je dirais, là, 12 pouces peut-être.
Ah, quand même.
Environ.
OK.
Et puis, que je compte amener avec moi là, dans les salons du livre. Quand ça va reprendre.
Ça va reprendre, oui.
Là, je suis en train de faire un petit bébé. Une petite Marjorie miniature.
OK.
Pour...
au crochet aussi?
Au crochet, toujours.
OK.
Je m'amuse beaucoup. Puis, je suis en train aussi de de préparer les suites.
Oui, bien c'est ça, je m'en allais là, moi aussi, j'ai cru comprendre qu'il allait en avoir d'autres. Ben, ça va être quoi les thèmes abordés? Là, on parle de solitude, on parle de solitude, mais on parle aussi beaucoup d'imaginaire, ouais. Puis, j'allais dire d'ennui, mais l'inverse de l'ennui, là, parce que quand tu as un imaginaire fort, tu t'ennuies jamais.
Non.
T'sais, moi, je n'ai pas le souvenir de m'être ennuyée dans ma vie parce que je suis capable. Ben, en fait, si je m'ennuie, ma tête part puis je me crée des histoires. Ça a toujours été ça. Donc, justement, regarder les nuages, tu t'ennuies pas quand tu regardes les nuages?
Non, tu peux pas. C'est impossible de s'ennuyer. Les autres thèmes, ben, en fait, c'est que je veux l'amener. Mais ben, écoute, j'ai sorti mon premier roman historique cette année et ça se passe aux Pays-Bas. OK?
OK.
Puis là, j'ai fait beaucoup de recherches sur les Pays-Bas. Je ne connaissais pas les Pays-Bas, du tout. J'avais aucune notion de ce que c'est. Ben, tu sais, on sait que c'est un pays plat avec des moulins à vent puis des tulipes. Ben, à peu près ça, mes connaissances s'arrêtaient là. Mais là, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de recherches, de fouilles et tout ça. Fait que là, j'ai dit, ben là, ma Marjorie, je vais l'envoyer là aussi. Okay. Étant donné que son père est pilote d'avion,
ben oui.
Ben, il peut aller à bien des places.
Ben oui.
Et là, ce que je veux, c'est qu'elle se familiarise avec d'autres cultures, avec la différence. Ça va se faire des amis un peu partout. Là, je l'envoie aux Pays-Bas. Après ça, je veux l'envoyer en Angleterre. Je veux l'envoyer en France. Je veux l'envoyer aussi à Cuba.
OK. Ben oui.
Pourquoi pas? Parce que
ben oui, il y a beaucoup de choses à dire.
Beaucoup de choses.
Ah oui, c'est intéressant.
J'ai été là, j'ai passé 2-3 semaines d'abord, fait que je vais utiliser en même temps les choses que je connais. Puis en France, j'ai été aussi. Fait que je me dis, en même temps, ben je les amène dans un autre pays.
Mm-hmm.
Je leur fais découvrir d'autres cultures, des gens qui sont différents. Ben, en fait, je fais découvrir ça à ma petite Marjorie, mais je fais découvrir aussi à mes lecteurs. Puis moi, il y a un point que je veux te dire tout de suite qui est très, très important pour moi. Il y a deux choses importantes dans mes... Ben, en fait, non. Pas deux. On va rendre à cinq. On va commencer par la première. La première chose, pour moi, ça doit être un outil pédagogique.
OK.
Donc, ce que j'ai fait avec mon livre, je me suis dit, j'aimerais ça que les enfants puissent l'utiliser pour faciliter la lecture.
Donc, OK.
Ce que j'ai fait, j'ai choisi des mots qui reviennent souvent.
Okay.
Des mots simples.
Oui, 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 oui.
Je les ai mis en caractère gras.
OK.
Et j'ai mis à côté un petit symbole. Par exemple, quand je dis, bon, je pense parfois, ben là, elle parle de sa mère, je pense parfois qu'elle est un petit peu fée, alors j'ai mis une petite baguette magique.
OK.
Ou peut-être un peu sorcière, là, j'ai mis un petit balai. Je vais te montrer pour le fun.
Pour aider la lecture, ben oui.
Okay. Ça veut dire qu'à toutes les fois qu'ils vont voir ce mot-là, ils vont dire, ah! Sorcière, balai, sorcière.
Et les mots reviennent, c'est des mots qui reviennent.
Les mots reviennent, puis à la fin, ben, ils ont un petit exercice à faire aussi là-dessus, de mettre ensemble ce qui va ensemble. Donc, le mouton, l'avion. Donc, c'est des beaux petits symboles que j'ai trouvés, j'étais contente.
Ah oui, puis ça, c'est pratique, ça. Moi, je sors de cette période-là, justement, là, d'apprendre la lecture à mon garçon. Là, puis, tu sais, j'ai remarqué ça, quand les mots se répètent, là, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Puis là, ben, ils vont pouvoir... vont pouvoir mettre ensemble le symbole
en plus.
Et l'image. Mmh. Puis ça, je trouve que c'est bien important. Mmh. Ben, c'est ça, j'ai mis 2 pages aussi d'activités pédagogiques à la fin.
Okay.
Donc, cet aspect-là,
parce c'est que ça s'adresse aux 3 ans et plus. Donc, c'est vraiment pour des premiers lecteurs. Puis même à 3 ans et plus, tu sais, si tu lui pointes la baguette magique, ils vont pouvoir commencer à reconnaître les mots qui vont avec le dessin.
Ouais. Ouais.
Je sais qu'à 4 ans, j'aurais aimé ça, voir ça. Connu des mots, j'aurais été contente.
J'aurais été contente.
Oh oui.
Puis tu vois, ce qui est fun, ça, je trouve ça assez extraordinaire. Mon livre s'est rendu à Madagascar.
Wow.
Il y a une femme, une écrivaine qui a acheté mon livre et qui l'a envoyé à sa protégée, à une jeune fille qui est à Madagascar, qui a 7 ans. Puis, elle m'a envoyé sa photo. Alors, tu vois, la petite jeune fille en train de regarder mon livre. Puis, elle le lit le matin avant d'aller à l'école.
Wow!
Pour apprendre le français.
OK.
Parce que ce que j'ai découvert, selon les commentaires que j'ai reçus des gens, ils m'ont dit, ben, quelqu'un qui apprend le français, là, quel que soit son âge, c'est un bon livre pour eux.
OK. C'est bon aussi pour l'apprentissage français.
Ouais.
Donc, oui. Ce serait bon aussi pour les classes, là, avec des nouveaux arrivants.
Oui.
Wow, OK.
Ben, tu sais, parce qu'il y a quand même pas mal de textes.
Oui, c'est combien de mots? C'est combien de mots? Est-ce que tu calcules tes mots?
Je ne
calcule pas, toi non plus.
Je calcule jamais, toi non plus.
Ben, je ne calculais pas. Maintenant, j'ai un éditeur qui me demande un nombre de mots précis. Fait que là, je calcule, mais je ne calculais pas avant, non.
OK.
J'avais jamais fait ça.
Moi, je me dis, ben, j'écris ce que j'ai écrit. Puis après ça, quand c'est fini, c'est fini. Non, mais en fait, je voulais faire 28 pages. 29 pages.
OK, 29 pages.
Donc,
24 de texte.
27 pages illustrées.
OK.
Ah, je veux dire.
À l'œil, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas vu, là, je dirais à l'œil, il doit y avoir une centaine de mots par page. Fait qu'on doit être dans du 2500.
Ah, hein, 2000... oh, c'est vrai, j'avais compté un petit peu, je pensais à ça, là, parce que je regardais combien de. Pour entrer dans quelle catégorie, là, est-ce que c'est 3 ans,
okay.
Est-ce que c'est plus. Disons que c'est sûr qu'un enfant de 3 ans ne lira pas tout ça.
Non, on va reconnaître des mots puis va se parler.
Ça va être un début vers autre chose.
Ouais.
Fait que c'est ça, c'est un peu ça que je vais faire avec elle. Je vais vraiment l'amener un peu partout. Puis ça me donnera l'occasion aussi de lui faire des vêtements appropriés selon les endroits là, pour mon crochet. Et puis ça, tout ça, je vais le faire vraiment. À l'aquarelle, donc je suis en train de me familiariser encore plus là, avec ce médium-là.
Avec l'aquarelle, OK. C'est bon. Parfait. Fait que là, tu avais dit que tu avais 5 choses bien importantes.
Ah oui, j'en ai fait 2. Hein. Ah,
ouais. Il reste comme 3-4 minutes à peu près. Là.
Ah, t'es pas sérieuse.
Ah, ça va vite, je le dis.
Pédagogie. Ah oui, livrer un message. C'est ça.
Livrer un message.
L'imaginaire. Donc.
Oui, l'imaginaire.
Parce que tu vois, j'écris aussi des contes étiologiques. Là, tu sais, je ne sais pas si tu connais ça, les contes étiologiques, c'est les contes du pourquoi.
Okay.
Alors, pour que tu dis pourquoi le ciel est bleu? Ben, c'est sûr que tu pourrais dire ben, le ciel est bleu, c'est normal parce que blablabla, scientifiquement.
Ouais, scientifiquement.
Et moi, ce que je veux, ben bon. C'est qu'on dise pourquoi le ciel est bleu et qu'on raconte une histoire qui fait en sorte que le ciel est bleu.
Ah, ça, c'est le fun, ça.
C'est le fun certain. Fait que ça, j'en ai un qui va sortir bientôt. Puis ça aussi, ça fait partie de quand je dis je veux. Développer l'imaginaire, la créativité chez l'enfant à partir de choses comme ça. Parce que quand tu inventes une histoire à partir de quelque chose qui fait partie du quotidien, tu sais, on voit bien que le ciel est bleu, mais pourquoi il serait bleu dans le fond? Ou pourquoi les girafes ont un long cou? Tu peux trouver 56 000 raisons.
Tu rentres d'une classe de maternelle avec ça, là, puis tu as 25 réponses.
Oui, c'est ça que je veux faire. Tu sais, ben, que je veux aller dans les écoles quand on va pouvoir le faire, là, en vrai, pour parler de Marjorie, puis les amener dans l'imaginaire des nuages, puis aussi les amener dans l'imaginaire des contes étiologiques. C'est un peu mon... Donc là, je suis rendue à combien
c'est super part? Intéressant.
L'imaginaire.
On a l'imaginaire, le pédagogique, c'était sûr.
Le merveilleux. Puis les messages. Les messages, pour moi, c'est vraiment important.
C'est l'imagination.
Tu vois, il faut toujours que j'apporte un message. Mm-hmm. Je trouve que c'est important, quand tu écris pour la jeunesse, d'avoir un message, pas un message du genre « je suis tout, je sais tout, je suis un adulte, blablabla, voici. »
Ah, mon Dieu!
Mais tu sais, leur apporter un petit quelque chose qui va rester. Tu sais, comme le message dans les nuages. Et pour moi, c'est comme naturel. C'est comme là, le message pour dans les Pays-Bas, il est déjà là. Je suis en train de travailler autour de ça. Alors, il y a toujours un message qui va arriver. Puis, autrement dit, c'est sûr que c'est du divertissement, mais en même temps, c'est un peu plus que ça. Quelque chose qui va rester.
Il y a l'aspect pédagogique, donc on est déjà dans l'aide à la lecture, mais aussi dans j'allais dire, il y a un petit côté philosophique.
Je pense que oui. Puis, tu sais, dans le fond, quand on écrit pour la jeunesse, on écrit avec ce qu'on est comme personne.
Ouais.
N'est-ce pas?
Ben oui.
Et comme je fais des conférences, je donne des conseils, je donne des outils, ben c'est sûr, je donne des outils à des proches aidants, des intervenants, pour qu'ils prennent soin d'eux. Je leur dis pas comment faire, je leur donne des outils pour qu'ils sachent le faire. Et quand j'écris pour les jeunes, c'est la même affaire.
Ben oui.
C'est comme j'ai envie, tu sais, je ne suis pas différente. Donc, j'ai envie de leur donner des outils pour qu'ils puissent les utiliser eux-mêmes, pour inventer, pour créer, pour être bien, pour être heureux, pour être joyeux. En tout cas, qu'ils l'utilisent selon ce qu'ils veulent faire.
Mm-hmm. Puis en plus, on peut voyager. Dans un pays imaginaire, en premier, puis dans des pays qui existent dans les prochains.
Dans des vrais pays.
C'est le fun.
Parce que
j'imagine qu'il va avoir un côté imaginaire très fort quand même. Il va avoir de la magie, tu sais, parce que chaque pays a aussi ses légendes. Je ne sais pas si tu vas explorer.
Ben oui, parce que dans le cas des Pays-Bas, je vais parler du petit Hans, celui qui a tenu digue, qui a mis son doigt dans la digue, là. Okay. Pour empêcher que son village soit inondé. Ils ont passé toute la nuit, là. Oui, il y a une très belle légende.
Il y a une légende. Okay.
Oui.
Je ne la connais pas, mais si, elle m'intéresse. Hey, Madeleine, ça y est, c'est déjà tout. C'était super intéressant. Je voyagerai encore longtemps comme ça avec toi. Puis j'invite les gens à se procurer Marjorie au pays de l'arc-en-ciel. C'est vraiment pour apprendre à lire, parce que j'ai compris avec belle. Puis des belles illustrations. Vous ne les voyez pas, c'est dommage, mais les illustrations sont très, très colorées, très belles. Alors, on peut se procurer ça à quel endroit?
Alors, on peut se le procurer sur ma boutique, qui n'est vraiment pas compliqué à retenir. C'est madeleinefortier.ca.
Super!
Ou si simple que ça. Puis c'est aussi, évidemment, chez les libraires. Là,
OK, chez les libraires.ca.
Oui. Ouais.
Excellent.
Très agréable. Merci.
Rencontrons maintenant Édith Bourget qui nous présente son roman « Comme un soleil ardent », un livre qui fait du bien et parle d'entraide et d'espoir. Artiste effervescente, voyageuse passionnée, amoureuse des jardins, Édith Bourget vit et crée à Edmundston, Nouveau-Brunswick. Elle a publié 37 livres pour les jeunes, albums, recueils de poèmes et romans. Ses recueils de poèmes chez Soulière Éditeur, Autour de Gabriel et les saisons d'Henri, ainsi que son roman Où est ma maison aux éditions Du Soleil de Minuit, ont été finalistes au prix littéraire du gouverneur général. Autour de Gabriel a reçu le prix France Acadie. Édith a participé au collectif Au la vache chez Soulière Éditeur, finaliste au prix TD. Elle a été invitée à des festivals littéraires internationaux au Canada et à l'étranger. Elle espère que ces mots contribuent à alléger les cœurs.
Alors, bonjour, Édith Bourget. J'espère que ça va bien.
Bien sûr que ça va bien, même si l'hiver fait beau.
Ben oui.
Le soleil était beau aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai. Oui, ça va très bien. Moi, c'est plus nuageux, neige, mais effectivement, puis c'est bien que tu parles de soleil, parce qu'on va parler d'un livre lumineux, j'ai l'impression, comme un soleil ardent qui est publié chez Soulière Éditeur et qui parle d'un grand garçon. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles.
OK. Alors, c'est l'histoire d'un grand garçon qui s'appelle Laurent, qui a 13 ans. Et puis, Laurent, quand il était petit, a eu de l'intimidation et tout ça. Puis, à un moment donné, il s'est mis à grandir. Il dit qu'il est devenu un géant. Il est poussé très rapidement, comme souvent les garçons le font.
Ouais.
Donc, en très peu de temps, il a poussé. Il dit comme une fleur du désert après la pluie, OK? Mais ce garçon-là, quand il était petit, donc, il était vraiment pas bien dans sa peau. Puis, il est arrivé dans sa classe un garçon qui s'appelle Enzo. Et puis, Enzo, lui, c'est un petit bonhomme vraiment très raide, OK? Pas raide, mais dans le sens, un petit corps, là, vraiment très, très dynamique et tout ça. Puis, lui, il n'y a rien qui faisait peur. Donc, il s'est mis à défendre un peu Laurent. Laurent finit par comprendre que c'était vraiment son ami. Enfin, il a eu un vrai ami.
Oh,
L'intimidation
wow.
a cessé. Mais Enzo, c'est vraiment son grand ami. Et Laurent s'est mis à grandir. Donc, il est devenu un géant. Géant, c'est relatif, hein? c'est pas 10 pieds, mais c'est pour un garçon de 13 ans, il est très grand. Autour de lui, il va graviter plein d'amis parce qu'il va devenir comme le centre de quelque chose. Il a les cheveux blonds, très roussailleux, donc c'est pour ça qu'il s'appelle comme un soleil ardent. Les gens disent toujours que c'est un soleil ardent parce qu'il bouge beaucoup. Puis, c'est quand même un garçon très calme, mais il va parler de son but. Il observe autour de lui. Il regarde partout, puis il se rend compte vraiment, il a une vision très, très lucide du monde qui l'entoure. Donc, il voit les inégalités, il voit les choses qui sont belles, puis il voudrait que tout soit beau. Puis il se dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc, Laurent, grâce avec ses amis, il y a 9 amis plus sa petite sœur, qu'il adore, qu'il appelle sa petite fille, qui est toujours avec lui. Alors, il la traîne toujours sur ses épaules. Ensemble, okay. Les enfants vont commencer à faire de petites actions. Laurent va beaucoup hésiter. Il ne saura pas trop comment s'y prendre. Il va finalement trouver les choses parce qu'il va se rendre compte que finalement, il s'agit juste de commencer puis faire des petites actions.
Okay.
Donc, il va avoir plein d'amis autour de lui qui vont l'aider. Ils vont faire de très petites actions, comme par exemple transporter le sac d'un vieux monsieur. Mm-hmm. Puis, quand le monsieur promène son chien, il est incapable de traîner son petit sac d'épicerie. Okay? Mais tout va basculer dans la vie de Laurent. Laurent va vraiment décider de faire ça parce que, à un moment donné, une de sa vieille voisine qui s'appelle Madame Tran va avoir perdu son chat. Et il va essayer de la retrouver, il va retrouver le chat de Madame Tran, il va lui mettre dans les mains, puis en voyant son grand sourire, vraiment comment il était, ça la rend heureuse. Il va se rendre compte que finalement, ce simple geste-là a changé la vie de la journée, cette journée-là, pour cette dame-là. Donc, c'est là qu'il va comprendre qu'un petit geste peut faire de grandes différences. Donc, la gang d'amis vont se mettre ensemble, ils vont faire plein de choses. OK. Wow. Toutes sortes de choses simples, là. C'est vraiment.
Oui, des petits gestes, mais qui font vraiment, c'est vrai, qui peuvent changer la journée d'une personne.
C'est ça. Mais Laurent, le livre, qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est que moi, comme auteur, j'essaie toujours des choses nouvelles. J'essaie toujours de dépasser ce que je suis capable de faire ou de changer ma zone de confort. Donc, au début, j'ai surtout publié de la poésie, hein.
Oui.
Les premiers recueils, c'est des poèmes, j'ai fait des romans. Et celui-là, j'ai uni la poésie, le portrait et le récit. Donc, le livre se divise en 4 parties. La première partie, c'est vraiment Laurent qui dit des poèmes, qui nous parle en poème de ce qu'il va faire, de comment il se sent par rapport au monde, comment il voit le monde, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme changement. Il va parler de les nouvelles personnes, de ses amis aussi, de ses voisins, ses amis. Donc, on va comprendre Laurent, l'évolution de Laurent, on va le sentir à travers de ses poèmes.
On le sent grandir.
On le sent grandir aussi. Oui. On se sent vraiment changer, prendre confiance en lui. Hein. C'est souvent qu'est-ce qui se passe à un moment donné. Hein. On réfléchit comme adulte aussi. Des fois, on a des phases où est-ce qu'on est moins en forme, on a moins confiance en nous. On recommence à se rebâtir et on recommence à prendre confiance. Des moments finalement. La deuxième partie, ce sont tous les amis de Laurent, qui vont donner l'opinion sur leur ami Laurent. Donc, grâce à leur portrait, qui dure, c'est juste 2 pages, hein, de chaque page, c'est à peu près 1 page et demie, 2 pages, ils vont nous raconter que c'est quoi la vie de Laurent. Laurent, pour eux autres, qu'est-ce que c'est? Enzo, son meilleur ami, va dire, Laurent, il ne sait pas encore, mais il a des rêves, il va réaliser de grandes choses. Moi, je le sais, je le vois aller, je suis là pour l'aider. Il va avoir Stella. Stella, elle est amoureuse de Laurent. Donc, c'est ça, ils ont chacun. Il y en a un autre qui s'appelle Liam. Lui, Liam, c'est un hyperactif. Donc, il dit, moi, je suis un hyperactif, mais c'est pratique du monde comme moi. Laurent l'a compris. Il est capable de me faire faire plein de choses. Donc, chacun des enfants va avoir une caractéristique utile pour Laurent dans sa mort. Okay? Et chacun va avoir une opinion. Ils sont tous là pour aider Laurent. Laurent, il les a toutes convaincus sans vraiment forcer, parce que juste à le voir, la grandeur, sa tranquillité, sa sérénité, puis la confiance tranquille, ça va aider les enfants à entrer dans le jeu. Il va savoir juste convaincre par l'action aussi, parce qu'il va en faire, OK? Donc, entre autres, il y a aussi Oscar qui parle. Lui, on peut dire qu'il y a peut-être le syndrome de Tourette, OK?
Oui!
il parle, mais lui, il est content parce que Laurent l'a aidé à lui a dit un jour, ben, pourquoi tu n'apprends pas des histoires, des fables? Comme ça, tu vas pouvoir t'habituer à parler doucement à chacun des mots. Donc, les enfants entre eux autres et avec Laurent ont une relation privilégiée pour chacun. Donc, pendant sa sœur aussi va vraiment parler de son frère, comment c'est extraordinaire, comment c'est vraiment un garçon formidable. La troisième partie du livre, c'est Madame Tran, qui est la dame qui a 75 ans. Oui, qui a le chat. Elle a à peu près 75 ans. Puis, elle regarde dans son quartier. Depuis que cet été-là, les jeunes ont commencé à faire plein de choses. Ont commencé à faire des actions. Elle les observe. Elle dit, ben, son mari est mort, elle est arrivée du Vietnam, elle avait 20 ans, elle habitait dans cette rue-là. On s'imagine, c'est une rue de Montréal avec les escaliers, tout ça. Donc, les enfants ramassent, elle les voit faire, mais les enfants vont aussi organiser un spectacle. Ils vont aller dans un parc. Tout le monde va se mettre ensemble pour amener des choses à manger. Ils vont s'asseoir, les enfants vont faire un spectacle. Parce qu'il y en a un de la gang qui dit, ben, moi, là, c'est bien beau, mais il faut quand même avoir le plaisir de s'envoler. Parce qu'il y en a un qui rêve de venir dans le cirque du soleil et de faire des folies. Donc, il va réunir les gens autour d'un spectacle aussi, les enfants. Madame Tran voit le changement qui se passe, les gens se parlent plus, les enfants vont aller parler aux gens aussi. Donc, Madame Tran voit vraiment tout ce qui s'est passé grâce à Laurent, le soleil ardent.
Mm-hmm.
Du... OK. Et ouais. le dernier, c'est vraiment le dernier poème de Laurent qui va dire, justement, c'est très simple, aller vers les autres, s'ouvrir son cœur, donner la main, tendre la main. C'est juste ça. Donc, le livre est vraiment, c'est la même histoire racontée de trois façons différentes.
Mm-hmm. Donc, ça de trois façons, parce qu'il y a les poèmes de Laurent qui ouvrent.
Le poème, le récit, en fin de compte, de Madame Tran, mais les portraits aussi. Donc, au niveau de, quand on pense au niveau des enseignants, par exemple, ce livre-là, ça permet vraiment de faire comprendre aux enfants comment on peut raconter la même chose.
Différemment.
Le point de vue, l'âge des personnages, qu'est-ce qui peut intéresser que dans un personnage plus vieux, il ne dira pas la même chose que l'autre.
Okay? Mm-hmm.
Donc, ça, c'est vraiment, ça donne un tout. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de l'expérience d'essayer de raconter quelque chose comme ça. C'est moins conservateur.
Okay? Ah oui.
L'écriture que j'ai est vraiment très, est très facile à comprendre quand même, parce que ça aussi, c'est un problème qu'on a souvent comme poète, c'est que beaucoup de gens croient que c'est hyper compliqué, que ça va être donc dur à comprendre, on peut pas comprendre. Alors, je vais en lire un juste pour montrer à quel point...
Ben oui, bonne idée, c'est ça que j'allais dire.
L'engagement de Laurent. Alors, je le lis, parce qu'il y en a 35 poèmes. Ça, c'est long.
OK.
Rien n'est parfait et ne le sera probablement jamais. Je souhaite au moins avoir le pouvoir de mettre des paillettes de joie autour de moi. Je veux tendre la main, ouvrir mon cœur. Je veux semer des graines dans d'autres cœurs, des graines d'amitié, de bonheur, de respect et de paix. J'espère qu'elles germeront toutes et vite.
C'est tout. Ça, c'est vraiment beau.
C'est super
ça. La poésie, c'est pas compliqué à comprendre. C'est compliqué à écrire pour moi.
Mais
ça dépend.
Il y a des poèmes qui peuvent être très compliqués. Mais tu sais, il y a une approche simple, parce que dans le fond, c'est la difficulté d'écrire de la poésie, c'est souvent, il faut normalement choisir le mot. Tu sais, quand on écrit un roman comparé à d'autres choses ou un récit, on a toute la suite de la phrase, on peut en mettre beaucoup de détails. Tandis que la poésie, pour avoir un bon effet, pour toucher plus profondément, il faut souvent avoir exactement le verbe moteur, le mot moteur, le charme est important, ne pas un trou normalement. Hein, c'est ça, on voit quand on écrit des romans, tu sais, toi et moi, on peut vraiment mettre des détails, on fait des descriptions. Dans la poésie, on
peut n'importe où, tu sais, on peut couper n'importe où dans notre phrase, tu sais. Quoique il y a du rythme, il y a des choses aussi qu'on peut faire dans l'écriture romanesque, mais dans la poésie, c'est ça, c'est le peu de mots, le choix de mots, la sonorité.
C'est ça, la sonorité, le rythme.
Le rythme.
C'est parce que là, il faut que tu sois capable, souvent on l'écrit puis on le dit, parce que c'est la meilleure façon de savoir si le poème est bon. Parce que si on ne le dit pas, on va arriver quand on fait de la lecture publique, mais là, on va s'accrocher dans les mots. Ça prend beaucoup de pratique aussi pour les lire, parce qu'il faut sentir, on appelle ça mettre les poèmes en bouche. Il faut vraiment sentir le rythme, la vitesse. Il y a toutes sortes de choses à tenir, pour lesquelles il faut tenir compte. Là.
Mm-hmm.
Mais c'est quand même, c'est ça. Il faut vraiment... Donc, pour les enfants aussi, comme quand je vais dans les écoles, puis les enfants parlent de poésie, on parle de poésie, les enfants, eux autres, adorent la poésie.
Ah, ils adorent ça. Ah, absolument.
Il n'y a aucun problème. C'est souvent les adultes qui ont eu des mauvaises expériences de poésie. Puis, des fois, c'est vrai que quand tu lis, il y a des poèmes qui sont un peu compliqués ou ça fait longtemps. Là,
mais c'est des poèmes de d'autres époques, souvent. Donc, les références ne sont plus les mêmes.
Exactement. Maintenant, tu peux vraiment avoir des choses très, très contemporaines. Souvent, il faut être de son époque aussi, être dans son époque. Donc, les sujets sont abordées, comme pour les poésies pour enfants, il y a beaucoup de choses par rapport à l'écologie, par exemple, à la beauté du monde, aux frères, aux sœurs, en adolescent de ce temps-là, on dirait que toutes les maisons d'édition sont en train d'ouvrir une collection de poésies pour adolescents.
Oui, ça, j'allais dire, il y a une vague depuis deux ans, peut-être, ou trois ans, là, de poésie, que ça devient de plus en plus populaire.
C'est ça.
Et les enseignants ont l'air d'embarquer là, fond.
Oui, puis, ça a l'air.
Ils à l'école, puis les enfants aiment ça, puis mon garçon aime, moi, en tout cas, mon garçon aime ça. Ouais. On a un livre de poèmes. Écoute, j'ai acheté ça dans mes années de libraire il y a des années. C'est Gilles Thibault. C'est avec un gros soleil sur le dessus. J'ai mémoire pour le titre, là, mais tu sais, on en a lu.
Et moi, mes premiers poèmes, c'était autour de Gabriel et les saisons d'Henri, qui ont été tous les deux finalistes au prix du gouverneur général. Tu sais, le livre, c'était vraiment celui-là, autour de Gabriel.
Ah oui. Je le connais. Donc, je l'ai vu.
Les saisons d'Henri, tu sais, les deux ont été finalistes au GG, puis l'autre a gagné le prix France-Acadie. France-Acadie, c'est le prix un peu Québec-France, France-Québec.
Ouais.
C'est Québec-Acadie, parce qu'on est en Acadie. C'est le seul livre que les jeunes ont gagné de tous les temps, là. C'est tout petit. Puis les gens, des fois aussi, il y a une chose qui est assez particulière que j'ai remarqué au niveau de la littérature. C'est pas rare, comme les enfants, des fois les parents veulent avoir des gros livres épais. Là. Fait qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui font des gros livres épais avec trois lignes quasiment dedans.
Ouais.
Parce que les gens mélangent la haute grosseur du livre avec la qualité du livre. Je dis pas sont mauvais sur le caractère. Mais c'est parce que moi, un des commentaires que j'avais eu de quelqu'un, ouais, mais comment ça qu'un petit livre comme ça peut gagner? La grosseur du livre, aucune importance.
Non.
C'est la qualité du livre qui compte. Mm-hmm. C'est différent du fond du livre, là. Tu sais, il y a des livres, c'est vraiment pour se détendre. Tu veux pas te casser la tête, là. Malgré que tu es autour de Gabriel, tu te casses pas la tête, là. Tu sais, c'est vraiment ça parle des choses très simples. Mais les gens mélangent un peu ça. Puis moi, je sais pas, toi, je pense que tes livres sont pas très longs, toi non plus.
Non, j'ai pas des gros livres non plus.
Moi, je suis vraiment de forme courte. Mm. Parce que toi aussi, il y a des gens, là, je comprends tellement pas, les gens sont capables d'écrire un roman de 60 000 mots. Moi, quand j'ai fait 25 000 mots, là, c'est vraiment, ça donne pas des gros livres, finalement.
Non. Donc, c'est ça. Moi, je suis capable de faire du 60 000 mots, mais là, en ce moment, la collection dans laquelle je publie, c'est du 35 000. Quoi? Ça, c'est pour les adolescents, mais pour la jeunesse, c'est plus petit.
Ouais,
c'est du 5 000 à 9 000. Ouais,
2500.
C'est ça. Mais, tu sais, il y a différents types d'écrivains aussi. T'sais. Moi, je suis une fille de beaucoup de mots. Tu sais, moi, c'est ça. Moi, je suis verbe. C'est un défaut, d'ailleurs. Tu sais, des fois, là, j'ai beaucoup de verbiage. Fait qu'il faut que je travaille ça. Mais, tu sais, je suis très, très, très admirative des gens qui, avec peu de mots, sont capables d'écrire beaucoup de choses.
Ouais. Oui, c'est moi, je suis vraiment moteur aussi, mais sauf pas quand j'écris, non. C'est vraiment...
Ouais.
C'est intéressant de voir aussi les personnalités, tu sais, c'est ça. Mais tu vois, quand j'ai écrit Comme un soleil ardent, dans le fond, c'est que je voulais vraiment parler d'écologie, même si moi, ici, on a construit un grand jardin. En plus, ça fait 30 ans que je reste dans cette maison-là. On a un très grand jardin. Ceux qui me suivent sur Facebook voient mes photos pendant l'été puis tout ça.
Ah oui, c'est magnifique.
Pas plus que ça. Mais sauf qu'on a vraiment, le jardin est toujours en mouvement. On est toujours en train de changer. On s'ajuste par rapport aux choses. Et nous, on a vu les changements dans qu'on a au jardin. Les insectes, là, ne pressent plus. Je n'en vois plus. On voit des. Mais avant, je voyais des bourdons, là, dépendant de la saison, parce que dans les saisons de bourdons, j'en avais des tonnes. Cette année, j'avais les gros bourdons. Des papillons, j'en vois presque plus. J'ai des coccinelles, ça fait des années que j'en ai pas vu. Vraiment fou. Les gens ne s'en rendent pas compte parce que j'ai remarqué que la majorité des gens ne regardent pas. Point. Tu sais, il faut regarder autour de nous. Il faut vraiment se mettre tout proche. Je sais pas à dire. J'ai des centaines de plantes dans le jardin. Normalement, je devrais être avec
ben oui. Chenilles,
être toujours en train de combattre les chenilles. Non, vraiment pas. C'est rare. De temps en temps, j'ai quelques chenilles, mettons, par rapport aux rosiers.
Ouais.
Vraiment, des insectes, des papillons, j'en ai pratiquement pas cette année. J'avais des demoiselles qui venaient souvent. Je n'ai pas eu une cette année. C'est pathétique. Les oiseaux, on les voit aussi. Nous, on les nourrit. Des sortes d'oiseaux qu'on voit beaucoup moins. Les chauves-souris, on n'y pense plus. On avait ici avant, on avait toutes les premières années qu'on était ici.
Okay.
On voyait les chauves-souris passer. Tous les soirs, la chauve-souris nous passait au-dessus de la tête. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je suis ici. sais, ça fait
aïe, aïe.
Ça fait 15 ans qu'on n'a plus. Ça, c'est que...
Ah, c'est inquiétant.
Ah, oui, c'est vraiment... C'est pour ça que je trouve ça important de parler,
d'écologie.
Puis les jeunes, souvent, dans les écoles, ils ont des cours, on va faire pousser ça, on va faire ça.
Ouais.
Et tout le monde, les gens essaient de sensibiliser. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui s'évanouissent. À un moment donné, quand ça devient le temps de vraiment d'être un consommateur, de rentrer dans la vie active. Il y a plein de choses que tu oublies. Mais après ça, les gens se déconnectent de la nature, sauf pour aller faire du ski ou aller faire des promenades.
Ouais. Mais pas le camping?
Oui, c'est pas tout le monde.
Qui est devenu populaire.
C'est ça, mais imagine si tout le monde, même en ville, tu regardais l'arbre qui est à côté de ton appartement, puis tu te disais, est-ce que j'ai vu des oiseaux?
Non, oui. Mais nous, on en a beaucoup. Ici, il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Je suis en ville, moi, à Sherbrooke, on a une famille d'écureuils, on a un couple de cardinal, on a des mésanges plein. Puis, tu sais, quand tu as parlé d'insectes, nous, on a un gros problème de scarabée japonais.
Ah oui, ça, nous, c'est pas rendu, on est contents. Mais ça, c'est des insectes introduits. Justement, par le merveilleux travail de l'homme, tu sais. C'est un peu ça. C'est comme il y a une sorte de coccinelles aussi qui ont été introduites ici. Ouais. C'est pareil. C'est parce que les gens essaient plutôt que la nature finisse par se rétablir, hein. Mm. Non, les gens vont trouver une méthode, disent, mettons, biologique. Ça marche pas tout le temps, là.
Non.
On regarde. Tu vois, nous autres ici, on a la grosse compagnie Irving, là. Bois et compagnie. Okay. Et nous autres, ils passent beaucoup, beaucoup de pesticides dans nos forêts. Tu sais ce que ça fait, les compagnies de bois, hein? Ça passe les pesticides, puis ça enlève les arbres, ça fait juste pousser la même sorte d'arbre. Ouais. C'est que les arbres, s'ils me font juste qu'est-ce qu'un conifère, mais c'est sûr que les oiseaux qui nichent dans les feuillus, il n'y en aura plus.
Non, c'est
pour ça qu'on n'en parle jamais assez. On parle juste de la planète. Mais sauver la planète, c'est petits gestes à la fois. C'est exactement ça. C'est comme rendre la vie meilleure dans ton quartier en portant les paquets de quelqu'un.
Comme le projet de Laurent.
Oui, c'est exactement ça.
Puis comme ça, c'est un roman. C'est un roman qui a l'air de faire du bien aussi, tu sais, dans la période qu'on vit en ce moment, tu sais, puis je pense que c'est ça, si je lis bien, il est né. Il est sorti en mars 2020.
Ben, juste avant.
Juste au moment où la pandémie a commencé, les librairies ont fermé, tout ça.
C'est ça, exactement.
Okay.
C'est dommage, parce que justement, après, on sait que l'été qui a suivi justement ça, les gens ont commencé à faire plus de potager, ils sont mis à faire du pain, les gens ont fait ça. Donc, il me semble que ça aurait été bien, là, tu sais, s'il avait été mis en évidence. Donc, après ça, tu sais comment, qu'est-ce que c'est, un livre qui sort, qui n'est pas là tout de suite. Après, il y en a d'autres qui poussent dessus, ce qui est normal aussi. Sauf que c'est dommage, je trouve ça vraiment dommage pour ce livre-là, quand même.
Oui, parce que la durée de vie d'un livre en librairie, c'est souvent 3 mois.
Oui,
Et même, c'est donc...
À part d'être
la pandémie.
Les gens qui sont toujours dans Salut Bonjour, dans toutes les émissions.
Oui, c'est ça, à part les...
Parce que c'est sûr que leurs livres sont connus, parce qu'ils sont toujours à la télévision, parce que c'est plus facile de prendre, suivre la suggestion de la personne qui veut acheter, que d'aller dans la librairie et de fouiller beaucoup.
Oui.
Hein? Puis c'est comme les librairies aussi, tu as des piles qui sont là, puis ça va être...
On a déjà écoulé notre temps, mais je voulais vraiment, vraiment parler parce que tu as aussi une nouveauté là, qui sort. J'ai vu ça passer sur Facebook. C'est Au chaud dans mon cœur chez Québec-Amérique, si ma mémoire est bonne.
Oui, c'est celui-là, t'as-tu le Soulière éditeur?
Oui, c'est ça, comme un solaire ardent et Soulière éditeur. Puis il est toujours disponible. Là, on parlait de mars 2020, mais c'est disponible. Vous le demandez chez le libraire, vous allez
voir. Il n'y a pas de problème, on le demande, c'est ça, on le commande.
Je suis sûre qu'il est en tablette même, là.
Je sais pas dans quel... Oui, il y a des librairies qui étaient en tablette.
Ouais.
On regarde vraiment sur les sites web.
Ouais.
Donc, Au chaud dans mon cœur, c'est ça, c'est paru cette semaine. OK, c'est paru
c'est
19. Non, pas 19, je suis un peu mêlée en tout cas. Au début de la semaine passée. Puis donc, ça, c'est un livre un livre qui traite du deuil. Ça, j'avais une bourse du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick. C'est un livre... J'ai étudié 2 livres sur le deuil. Un pour les petits, donc celui-là, Au chaud dans mon cœur, qui est... à peine 2500 mots, qui parle vraiment du deuil. Et il va avoir un autre, le même livre, pas le même, mais pour adolescents, avec le même personnage, okay. Le même thème, mais très écrit différemment. Donc, okay. Toujours dans mon cœur, c'est l'histoire de Mélodie qui a 8 ans et qui va, son grand-frère va se frapper par une auto, qui se fout de vélo. Il va être, au début, il va être à l'hôpital, mais finalement, il va être dans le coma, puis finalement, il va mourir. Donc, elle va avoir beaucoup de peine, mais ses parents vont accepter que les organes de leur fils David soient prélevés pour donner à des gens qui sont malades, donc qui vont les sauver. Alors, pour Mélodie, ça va être une des choses qui va un peu, c'est la chose qui va la plus la réconforter le plus. Pas juste caresser un chien, pas juste, tu sais, ça va être ça. Elle va se dire, mon frère, c'est un sauveur, finalement. Il est mort pour rien, hein, parce que ça aussi, on sait que quelqu'un qui meurt, qui a donné ses organes, souvent, les gens de la famille vont trouver, effectivement, que c'est, de fait, un tellement beau geste que
c'est de sauver la vie, vit à l'intérieur de quelqu'un.
C'est vraiment écrit par les yeux d'une petite fille. Donc, on sent tout, elle aussi, son cheminement. Elle et de sa famille, la place que David avait pour lui. Donc, il va être au chaud dans son cœur. Ça va demander à sa mère, à un moment donné, si, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est bien, David? Est-ce qu'il est bien? Sa mère va dire, David, il est dans ton cœur. Donc, il est au chaud dans ton cœur. Donc, il est au chaud dans ton cœur.
C'est émouvant. Hey, merci beaucoup, Edith. C'était très agréable rencontre. Alors, donc, on a parlé de deux livres, Comme un soleil ardent, publié chez Soulière Éditeur, puis Au chaud dans mon cœur, qui vient de sortir chez Québec Amérique. Je vous invite à vous les procurer. Deux très beaux livres. Merci beaucoup.
Merci, Amélie.
Merci d'avoir été à l'écoute. Dans le prochain épisode, nous rencontrons les récipiendaires du prix Cécile Gagnon ainsi que Manon Plouffe. C'est un rendez-vous!
Bye bye!